des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
La France dans l'œil de Marcel Pagnol. Épisode 3, l'homme du cinéma moderne. Celle des archives est un récit à partir d'archives commentées par des invités proposés par Mathieu Garrigou-Lagrange et Charlotte Roux, attachés de production Lily Corner, documentation INA Véronique Jolivet et à la technique Delphine Baudet.
Honoré, si tu es un homme, dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur.
Mais naturellement que je te prends pour un menteur.
Eh bien, capitaine.
Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens.
Dans l'épisode 2, nous avons quitté un Marcel Pagnol, un brin macho, ou en tous les cas assez traditionnel dans sa façon de considérer les femmes. C'est d'ailleurs une critique qu'on lui fait régulièrement, celle d'être un artiste traditionnel, exaltant une France plus ou moins disparue, y compris dans ses mœurs, et jouant sur la fibre de la nostalgie. Mais d'un autre côté, Pagnol était particulièrement moderne, et cela par bien des aspects, nous allons le voir. Alors comment le situer sur l'échelle qui va de la modernité à la tradition ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à présent, en commençant par l'aspect moderne, l'homme à la pointe du progrès technique, celui qui découvre, avec un grand enthousiasme, le cinéma parlant. On retourne voir dans la salle des archives.
Un soir, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque je vis entrer Pierre Blanchard. Il venait de tourner 5 ou 6 films muets qu'il avait rendus très célèbres. Ce soir-là, il avait l'air très excité, car il commença à me parler avant même d'avoir refermé la porte. Il me dit, je viens de Londres, où j'ai vu une chose extraordinaire, un film parlant. Ça s'appelle Broadway Melody, et ça se joue au Palladium. Il faut absolument que tu ailles voir ça. Bien, je partis le lendemain pour Londres, où je restais 3 ou 4 jours, et j'allais voir 5 ou 6 fois de suite Broadway Melody. Évidemment, la technique de cette époque n'était pas encore ce qu'elle est devenue, après 30 ans de recherche et de perfectionnement. La jeune première s'appelait Bessie Love. Par moments, elle avait un timbre de voix tout à fait charmant, mais dans d'autres scènes, par exemple, quand elle gémissait, on aurait dit qu'elle gémissait au fond d'un tonneau. Quand elle chantait, on pensait à un mirliton. Mais enfin, ce son étrange semblait vraiment sortir de ses lèvres, et comme j'avais une confiance absolue dans le génie des chercheurs et dans l'ingéniosité des techniciens, je pensais que l'ère nouvelle venait de s'ouvrir.
Hélène Rivière-Lévin, vous êtes agrégée de lettres et spécialiste de Pagnol, doctorante à l'Université Côte d'Azur, et avec vous, on commente ses archives, celle-ci par exemple.
Alors dans celle-ci, il y a énormément d'éléments, puisqu'il y a à la fois la confiance dans le progrès, qui est mentionnée explicitement par Pagnol. J'ai confiance dans les chercheurs, dans les progrès qui feront que, ici en l'occurrence, le cinéma parlant sera de meilleure qualité au fur et à mesure du temps. Et en même temps, voilà, cette fascination pour les progrès techniques, en fait, avec la découverte du cinéma parlant et la mention de la qualité médiocre encore du son, qui est d'ailleurs quelque chose d'intéressant, puisque les premiers films parlant de Pagnol lui-même, sont de cette facture-là, à savoir avec un son qui parfois des prises de son réel en extérieur où on n'entend pas très bien ce que les acteurs disent ou où on entend plus les sons du décor. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont vraiment l'épreuve des balbutiements du cinéma parlant et de la construction par Pagnol, notamment, de cette forme d'art.
Et pour se rendre compte à quel point il est vraiment intéressé par tout ce qui sort, ces innovations techniques, il faut rappeler que pour aller voir ce premier film parlant à Londres, il va sauter sur un bateau. Et ça, c'est peut-être une des choses qui lui fait le plus peur au monde, de prendre la mer.
Je pense que c'était pas un immense voyageur, en effet. Donc là, il était certainement puissamment motivé pour traverser la mer et voir ce progrès technique fou.
Depuis son expérience du parlant à Londres, Pagnol soutient donc cette nouvelle technologie. Cela ne lui vaudra pas que des compliments d'ailleurs. Rému notamment, son acteur fétiche, ne veut pas entendre parler de cette modernité-là. Pour lui, on ne doit pas imprimer le théâtre sur pellicule, car le théâtre, c'est ce qui se joue chaque soir, toujours un peu différemment, face à une salle de spectateurs. Dans ces années de l'entre-deux-guerres, la compagnie américaine Paramount a ouvert des studios à Paris et cherche des films à tourner en français. Bob Kane, qui en est le directeur, approche Marcel Pagnol, attiré par le grand succès dont jouissent ses pièces. Il lui propose d'adapter Marius, mais avec des acteurs de son studio. Irrecevable pour Pagnol, il ne tournera Marius qu'avec le vrai Marius, c'est-à-dire Rému. C'est d'accord, finit par concéder Bob Kane, mais à condition que ce soit le Tchèque Alexandre Korda à qui il fait confiance, qui soit derrière la caméra. Ainsi naît Marius, le film, sorti en 1931. Ce sera le premier de la trilogie marseillaise, avec Fanny en 1932 et César en 1936.
Dites, monsieur Escartefille, ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres?
Quels autres?
Les autres bateaux, ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers.
Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose?
Parce qu'ils vont loin.
Oui, et d'autres fois, ils vont profond.
À l'usage, le choix de Korda comme réalisateur satisfait plutôt Pagnol. Tous les deux s'entendent très bien, ils peuvent même se parler en anglais, puisque Pagnol a enseigné cette langue au lycée, on s'en rappelle. Et puis les deux hommes partagent des passions viriles, les femmes, l'argent, le soleil, cela les rapproche encore. Écoutez leur camaraderie à l'œuvre dans cette conversation de 1955, retrouvée au fond d'un placard de la salle des archives.
Alors, je dis à Rému, il va venir un metteur en scène d'Hollywood, qui s'appelle qui s'appelle Alexandre Korda. Il me dit, pourquoi on fait venir un Hongrois d'Olivoy pour nous apprendre à être Marseillais? Et il refusait absolument de tourner. Et alors, Korda est arrivé, il avait un chapeau melon. Il était très jeune, il avait un chapeau melon, parce qu'il trouvait que ça faisait bien, que ça faisait sérieux. Et alors... Et alors, il a vu Rému.
C'était joli.
Le chapeau melon. Il était joli, mais il était melon. Et alors, Rému a vu Korda, et Korda a vu Rému. Et Korda a compris tout de suite. Il lui a donné un cigare d'à peu près 30 cm. Et Rému m'a dit, ce type est extraordinaire. C'est un homme intelligent, et il ne faut pas se mâcher avec lui. Et c'est comme ça que nous avons tourné Marius.
Alexandre Korda, je voulais vous demander, à vous aussi, quelle était votre impression, alors, lorsque, arrivant d'Hollywood avec ce chapeau melon, que décrivait tout à l'heure Marcel Pagnol, vous avez trouvé Marcel Pagnol. Quelle impression vous donnait-il à cette époque-là?
À peu près la même chose comme aujourd'hui, un peu fou, un peu charmante.
Une espèce de génie.
Une espèce de Hongrois du midi.
Hongrois du midi, oui.
Ça, c'est bon. Comment était-il?
Il était tard. Il était toujours tard.
En retard.
En retard. Mais c'était un temps merveilleux pour faire ce film.
Noël Herpe, vous êtes écrivain, cinéaste et historien du cinéma et vous allez commenter pour nous certains des documents trouvés dans la salle des archives. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer de celle-ci?
Ben, j'avoue que c'est un document que je ne connaissais pas, mais qui est assez réjouissant. Ça illustre cette tour de Babel extraordinaire et picaresque qu'était le premier cinéma parlant, puisque à cette époque-là, on faisait les films en plusieurs versions. Les studios de Hollywood et les studios de la région parisienne étaient envahis de troupes cosmopolites tournant les films 24 heures sur 24 dans différentes versions. Et je crois que c'est vraiment un pari intelligent de Pagnol que d'avoir laissé la bride sur le cou à Korda, qui était un metteur en scène de grand talent. Parce que Korda a apporté quelque chose à sa pièce, quelque chose qui est justement l'air du large, le hors-champ, les extérieurs, cette ouverture sur la mer et l'appel du large qui est le thème de la pièce, hein, puisque le jeune Marius ne rêve que de quitter l'étroite ville de Marseille, à ses yeux en tout cas, pour courir le monde et courir les mers. Et Korda a apporté cette espèce de réalisme cinématographique qui permet de donner l'axe et le hors-champ maritime, en quelque sorte, de la pièce de Pagnol qui, par la force des choses, restait forcément enfermée entre les trois murs du théâtre. Donc ça a été plutôt un pari gagné, le film a été un grand succès, un des premiers grands succès du cinéma français des années 30. Et je pense que c'est ça qui a donné à Pagnol le goût du cinéma et le goût de faire des films lui-même. Il a su trouver la bonne place et en même temps peut-être faire ses classes, c'est-à-dire imaginer ce que ça pourrait être un jour que de faire un film lui-même.
Le film Marius est un succès comme l'avait également été la pièce. Mais Pagnol n'est pas tout à fait satisfait. À vrai dire, il ronge son frein, car traîner sur les plateaux où d'autres que lui mettent en scène et en image ses propres textes ne lui plaît pas tant que cela. Il se dit qu'il pourrait très bien passer, lui, directement derrière la caméra. Cela tombe bien, il a gagné beaucoup d'argent et voilà qu'il achète à Marseille quelques bâtiments vétustes dans le quartier du Prado pour en faire rien moins que ses propres studios de cinéma. C'est le début d'une sorte de petit Hollywood sur Canebière qui va bientôt fonctionner à plein régime, et cela jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Car quand celle-ci éclate, même si tout a souri à Pagnol, elle va le frapper, comme bon nombre de Français. La mobilisation vide en effet de son personnel les studios du Prado, les Allemands contrôlent évidemment sévèrement ses films, et puis la pellicule est rare, chère et souvent de mauvaise qualité. Noël Herpe, que pouvez-vous nous dire de l'attitude de Pagnol durant l'occupation ?
Il y a deux aspects, il y a l'aspect historique et il y a l'aspect thématique. Du point de vue historique, toute la lumière n'est pas vraiment faite sur la position de Pagnol sous l'occupation. Disons que ses biographes, qui sont souvent des hagiographes, ont tendance à le blanchir en disant que Pagnol, certes, a réalisé avec La fille du puisatier le premier film tourné et sorti en zone libre, c'est ce qui est vrai. Pagnol lui-même, qui n'est pas exempt de mythomanie ou d'arrangement avec sa propre légende, va raconter que les Allemands n'ont pas du tout aimé La fille du puisatier et qu'ils sont venus interrompre une projection pour couper une scène qui était la fameuse scène où la famille réunie écoute le discours de renoncement du maréchal Pétain le 17 juin 1940 et où il y a le personnage de Joseph D qui dit « Mais de toute façon, les morts des batailles perdues sont la raison d'espérer des vaincus », quelque chose comme ça. Je pense que Pagnol a prudemment arrêté de tourner assez tôt, dès 1942. Il a laissé la Gaumont récupérer les studios qu'il avait développés dans le Midi. Il y a eu la production de toute une série documentaire pétainiste appelée La France en marche, où il semble qu'il n'ait pas vraiment été impliqué. Bon, voilà, ça c'est l'aspect qui reste, à mon avis, encore un peu à élucider du positionnement un peu ambigu, en tout cas à tout le moins, de Pagnol pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et puis on a pu lui reprocher de continuer à fréquenter Paul Morand, ambassadeur sous Vichy, ou de participer au COIC, le comité d'organisation de l'industrie cinématographique vichiste. Mais on peut aussi, à son actif, dire qu'il a vendu ses studios et qu'il ne s'est pas compromis avec la Continentale. Les affaires reprennent tout de suite après la guerre et le studio est relancé. Il va y tourner par exemple Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, comme en témoigne cet extrait de Journal Radio de 1954, retrouvé dans la salle des archives.
En ces premiers jours d'été, dans la grande lumière provençale et dans ses studios marseillais, Marcel Pagnol réalise Les Lettres de Montmoulin. Nous avons pu le joindre sur un plateau entre deux bouts d'essai. Pagnol suit la réplique et s'apprête à lever la main.
Mais où tu es ?
Aïe ! Ne fais pas un mouvement si brusque. Ton chandelier m'a traversé le ventre. Et puis n'aie pas peur. Je viens pas pour te faire du mal. Et avec quoi je t'en ferai ? Je n'ai plus de corps.
Jésus-Marie-Joseph ! Toinette, tu es mort ?
Non, mais c'est presque aussi terrible. J'ai prêté mon corps au diable.
Mais pourquoi faire ?
Couper !
Qu'est-ce qui vous fait tendre l'oreille, Noël Herpe, dans ce Pagnol au travail ?
C'est peut-être le respect des comédiens, et c'est le fait que justement, lui, il tend l'oreille, il a l'air d'être très content, et je pense qu'il ne devait pas énormément emmerder ses comédiens sur les tournages, étant donné que ces tournages se faisaient très vite. Hein. On sait que le sermon d'Henri Wilbert dans Manon des Sources, qui dure à peu près 20 minutes de projection, a été tourné en 3 heures. Donc j'ai tendance à penser que Pagnol était quelqu'un qui ne torturait pas ses comédiens en faisant des prises multiples ou nombreuses, et qu'il était presque le premier spectateur. À partir du moment où il avait choisi ses comédiens, la direction d'acteur allait de soi. C'était des gens avec qui, de toute façon, il était dans une grande entente amicale, familiale. Fernandel a raconté, alors de manière peut-être un tout petit peu exagérée, comment se passaient les tournages de Pagnol. Il avait gardé le souvenir de longues parties de boules comme ça, où on déjeunait très longuement, et puis de temps en temps, on tournait un plan.
Mais revenons à l'entre-deux-guerres et à ces premières années où Pagnol est devenu totalement cinéaste, c'est-à-dire indépendant de la Paramount. elles sont entachées ces années d'un deuil, celui de son frère Paul, emporté par le cancer à l'âge de 33 ans. Une tragédie qui en rappelle une autre, celle de la mort de sa mère à Marcel Pagnol, décédée alors qu'elle n'avait que 36 ans d'une angine de poitrine et que Marcel n'en avait que 15. La litanie des deuils n'est cependant pas terminée. Il y aura aussi le drame de sa fille, Estelle, partie à 2 ans et demi seulement d'une crise d'acétonémie en 1954. Hélène Rizière, à quel point il y a aussi de la tragédie dans la vie de Pagnol qu'on a tendance à assimiler justement toujours à son côté solaire?
Comme vous l'avez très bien rappelé, il y a cette série, alors sur plusieurs années bien sûr, de deuils qui ont profondément marqué sa vie et en fait qu'on retrouve finalement aussi dans les souvenirs d'enfance. Alors pas le décès de sa fille qui pour le coup n'est presque pas mentionné par Pagnol tant il a été question d'une tragédie monumentale.
Jusqu'à la fin, il n'a jamais pu réellement en parler ou écrire dessus.
Voilà, ça n'a jamais été mis dans aucune œuvre. Mais pour ce qui est de sa mère, de son frère, on sent en fait toute cette nostalgie dans les souvenirs. Et on a notamment ce moment extrêmement poignant de la fin du château de ma mère, où on a une transition entre une scène plus ou moins de beuverie, entre Joseph Pagnol, qui pourtant est un instituteur très sobre, qui pour une fois se met à boire et avec un de ses amis et qui rit aux éclats. Et une page après, on change complètement de scène et de moment et on passe à l'évocation du décès de sa mère, en fait, dans une prolepse, comme ça, une avancée vers le futur. Et ça, en fait, c'est vrai qu'on le retient moins dans les souvenirs, mais il y a toujours, en fait, cette bascule entre l'humour, le comique et soit le tragique, soit le pathos ou le lyrisme.
Qui n'est pas qu'un effet dramatique, qui correspond un peu aussi à la façon dont semblait vivre Pagnol.
Absolument, en fait, c'est vraiment toujours cet effet de balancier entre la joie, les moments de camaraderie, de comique, de fraternité avec les amis, la famille, et toute cette joie qui est émaillée de deuil, de tristesse et d'événements plus ou moins tragiques.
La mort de son frère, c'est important aussi professionnellement parlant, puisqu'ils travaillent ensemble.
Oui, et donc ça signe non seulement l'arrêt d'une collaboration, mais aussi la disparition d'un certain mode de vie qu'incarnait encore son frère, puisqu'il est présenté comme l'un des derniers chevriers par Pagnol dans ses souvenirs. La disparition de son frère représente aussi pour Pagnol la fin d'une époque, en quelque sorte.
En tout cas, il aimait travailler, soit en famille, soit avec des amis. Donc la camaraderie ou le lien un peu familial était important pour lui, jusque dans son travail. Il faut dire que son travail lui prenait beaucoup de temps.
Absolument, il y a vraiment je pense que ça c'est quelque chose aussi qui vient du théâtre chez lui, c'est que par exemple, lorsqu'il tournait ses films, il y avait vraiment cet esprit de troupe avec tous les acteurs. Voilà, ils étaient réunis, certes pour travailler, pour tourner des films, mais l'ambiance était quand même assez souvent, d'après ce qu'il se disait, détendue, émaillée de bons repas, d'apéritifs en tout genre. Et donc oui, il y avait toujours cette ambiance particulière de qui dépassait le cadre professionnel en fait.
Et il est vrai que dans les studios du Prado, l'atmosphère est familiale et amicale. De façon revendiquée, l'inspiration du moment est bien souvent préférée à un professionnalisme qui serait trop rigide. On travaille quand Pagnol a envie de travailler et le reste du temps, on joue à la pétanque. D'ailleurs, parmi les acteurs, surtout les seconds rôles, on trouve un certain nombre de gens du cru. Ce qui agace d'ailleurs certains professionnels des plateaux, lesquels se plaignent au passage de l'aspect sommaire des studios du Prado, alors qu'ils sont davantage habitués à ceux plus confortables de la région parisienne. Mais pour Pagnol, ça n'est pas cela qu'il compte, et il leur rétorque que au moins on tourne à la maison. Une parenthèse sur ce point. Nous avons parlé dans le premier épisode du rapport de Pagnol à son pays et du rapport que les Français entretiennent avec lui. Il faut ajouter à ce dossier la volonté du cinéaste de tourner chez lui, et si possible avec des techniques françaises. Un certain nationalisme productif, si l'on veut, qui fait son grand retour aujourd'hui avec le thème du fabriqué en France. Et cela le conduit par exemple à se désoler de devoir tourner sur de la pellicule belge Agfa ou américaine Kodak. On a d'ailleurs vu aussi qu'il voulait s'émanciper des studios américains, ce qui va dans le même sens. Parenthèse dans la parenthèse, plus tard, il n'hésitera pas à s'installer à l'étranger, ce sera sur la principauté de Monaco. Mais tourner local et avec l'accent est une chose importante pour lui malgré tout. Justement, l'une des stars de l'époque s'appelle Fernandel. Il est marseillais et il a l'accent. Quoi de plus naturel pour les deux hommes du Sud que de se rencontrer? Pagnol se présente donc un soir à la loge de l'acteur pour lui proposer un rôle qui va le changer de ses habitudes et lui faire quitter ses costumes de gendarme. C'est exactement ce qu'attendait Fernandel qui entre en 1934 dans la tribu Marcel Pagnol. Pendant 15 ans, les deux méridionaux vont tourner ensemble 6 films, dont les grands succès Angèle et Regain. Voilà ce qu'on a retrouvé à ce sujet dans la salle des archives. Fernandel, au micro de Lisélina, en décembre 1953.
Mais dites-moi, lorsque vous avez vu le succès de Rosier et de Madame Husson, est-ce que vous avez pris le parti de faire rire, ayant eu ce succès de faire rire ?
Je n'avais pas encore la possibilité et l'autorité d'imposer mes rôles. Mais enfin, on a commencé à me dire, est-ce que vous aimeriez tourner ci, est-ce que vous aimeriez tourner ça ? C'est à ce moment-là que Marcel Pagnol, mon compatriote, m'a proposé Angèle. Et, 2 ans après le Rosier de Madame Husson, après une série de vaudevilles militaires et autres qui ont eu un grand succès à cette époque, Marcel Pagnol m'engagea pour tourner Angèle et je lui ai dit exactement ceci. J'accepte de faire ce rôle et si jamais le public rit à des passages aussi émouvants que ceux que tu as écrits, je me consacre définitivement au vaudeville militaire.
Et le public n'a pas ri, la preuve.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire les deux. Écoutez, vous savez, la collaboration avec Marcel Pagnol est un peu différente des autres. Parce que lorsque j'ai tourné Naïs avec Marcel Pagnol, de suite après la Libération, c'est moi qui avais dit à Pagnol, tu devrais me faire un film d'après Anaïs Mikoulin d'Émile Zola. Et il a fait Naïs. Or, Pagnol est un homme qui fait son texte tout d'un coup, ou pas du tout. Là, Naïs, il me l'a fait tout d'un coup. Dans d'autres, il le faisait à moitié, et dans d'autres, il ne le faisait pas. Alors, quand il le donnait au dernier moment, forcément, le film en souffre. C'est arrivé dans le Carnaval. Je ne sais pas si c'est l'air du midi, le soleil, mais la farniente. Pour Carnaval, j'ai eu ça journellement. J'étais toujours très bien d'ailleurs, parce que, n'est-ce pas, il a un texte tellement étincelant qu'on oublie que ça n'a pas été fait à la suite. Mais croyez-moi, c'était assez difficile à interpréter.
Et oui, on entend dans le ton de Fernandel que ça n'a pas été très facile tous les jours de travailler au milieu du farniente et avec les textes qui arrivent à la dernière minute. Noël Herbe, qu'est-ce que vous en pensez et que vous dit cette archive ?
Que Pagnol a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il y a cette nonchalance, cette indifférence à la technique, le fait que je pense qu'il devait certainement pas faire des storyboards ou des préparations méticuleuses, qu'il avait un peu tout dans sa tête et dans son cœur. Voilà, ensuite on atteint les limites de ce système, je pense qu'on les atteint peut-être un peu après la guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, il a peut-être plus la patience de faire des films, on le sent bien. Les films se raréfient, il y a des films un peu improbables comme La Belle Meunière. C'est encore pas mal dans Naïs parce qu'il y a un beau sujet et un Fernandel qui est vraiment magnifique dans le rôle du bossu de Naïs adapté d'une nouvelle de Zola. Ensuite, sur Topaz, ça se passe très mal. Pagnol et Fernandel ne communiquent plus que par petits billets aigres doux. Ils ne s'adressent plus la parole. Mais enfin, cette archive donne un éclairage intéressant, en effet, du fait que Pagnol, à un moment donné, se désinvestit un peu du cinéma et place ses billes ailleurs, peut-être davantage, d'abord dans le retour au théâtre avec Judas et Fabien, et puis bientôt, on le sait, dans un retour éclatant à la littérature, enfin, ou presque dans un début d'écrivain, avec ses volumes de souvenirs.
Alors, quels sont les meilleurs films, finalement, selon vous ?
Oh bah pour moi, c'est Angèle qui est vraiment une sorte de western français, matinée de tragédie. Je pense qu'il a retrouvé la substantifique moelle du livre de Giono. Et en même temps, c'est du cinéma pur. C'est-à-dire, c'est du cinéma à la fois de tragédie et en même temps de pure contemplation. Parce que c'est un film qui dure assez longtemps. Il y a peu de situations. Mais il y a une manière de regarder les comédiens, de regarder le paysage, de faire vivre la terre et les hommes en lien avec la terre, qui est quelque chose d'absolument nouveau dans le cinéma français de l'époque, qui était très bourgeois, très enfermé dans les studios. Là, tout d'un coup, Pagnol ouvre les fenêtres et il fait pratiquement le premier, avec Jean Renoir, qui à la même époque fait Tony, dans ses studios d'ailleurs. Pagnol est le premier cinéaste français du parlant à tourner pleinement en décor naturel et à utiliser le décor naturel comme un acteur du drame. Mais j'aime beaucoup La Femme du Boulanger aussi, pour les mêmes raisons.
Retour à la biographie et au studio du Prado. Pagnol est alors dans sa trentaine et nous l'avons dit, il est déjà une star. Cela lui donne les moyens de développer sa société marseillaise et il dispose à présent de plusieurs studios de tournage, d'un laboratoire pour développer les films et même d'une salle de cinéma en ville afin de contrôler une partie de leur diffusion. Tout cela sans compter le plus beau des lieux de tournage en plein air, c'est-à-dire La Treille, sa maison d'enfance pendant les vacances. Maître chez lui, il innove, et de plusieurs manières. Avant tout le monde, il sort la caméra des studios, l'installe dans une camionnette afin de faire des travelling. Il utilise des pellicules teintées, bleu pour la nuit, rose pour le jour, qui créent des effets nouveaux. Carpagnol est un entrepreneur, un bidouilleur aussi. Il a même inventé le prototype d'une voiture qu'il a appelée ironiquement la Topazette, bricolée dans son moulin à Ignières dans la Sarthe, un véhicule qui atteint tout de même 70 km à l'heure et qu'il pense un temps commercialiser. Là encore, on n'est pas vraiment face au stéréotype de l'artiste maudit. Si on devait le comparer à un autre cinéaste, on pourrait plutôt aller voir ou chercher du côté de Jacques-Yves Cousteau, l'inventeur de nombreuses techniques pour filmer sous les mers. Et puis, encore du côté de l'innovation et de la modernité, Pagnol s'intéresse à une méthode très innovante de cinéma en couleur, le roux color, qu'il expérimente dans ses films. Nous avons justement trouvé sur une étagère de la salle des archives un document où il en est question. Il date du 7 décembre 1946 et c'est une tribune de Paris.
Mettons-nous d'abord d'accord sur un point, si vous le voulez bien. Nous ne sommes pas ici pour parler des qualités ou des défauts du en soi du film de Marcel Pagnol, La Belle Meunière. Nous sommes ici pour parler technique. Nous sommes ici pour parler des qualités et des défauts du procédé roux color qui a été utilisé pour ce film. Et je constate, je dis tout de suite que je n'ai pas vu le film, par conséquent je suis parfaitement impartial, je constate simplement que la critique, même à l'égard du procédé technique en lui-même, a été d'une extrême réserve. Et je voudrais d'abord passer la parole à la critique, si Marcel Pagnol le permet.
Avec plaisir, je vous remercie de ne pas vous parler ici de mon film, car il me serait difficile de le défendre et de proclamer mon talent personnel. Et d'autre part, si Jean disait du mal, je suis persuadé que Charançol me croirait.
Alors, Georges Charançol...
Il te croirait certainement, mais nous sommes ici pour parler du roux color. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parlât un tout petit peu de la question couleur. Et je tiens à dire tout de suite que l'avenir me contredira certainement, qu'en cet instant je me couvre de ridicule, mais j'ai horreur de la couleur au cinéma. Je suis persuadé que le blanc et noir est très supérieur dans l'expression des valeurs colorées que les rouges garances, les jaunes canaries et les verts émeraudes qui s'étalent actuellement sur l'écran du Madeleine. Par conséquent, je suis contre la couleur. J'estime qu'il y a deux ou trois films qui nous ont donné une petite idée de ce que pourrait être la couleur entre les mains d'hommes de goût, mais à cela près, j'estime que la couleur est une catastrophe pour le cinéma.
Noël Herbe, qu'est-ce que c'est que cette technologie, le roux color, qui n'a finalement pas survécu ?
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, on peut dire qu'une fois de plus, Georges Charançol a été dans le sens de l'histoire. Bon, le roux color a été une de ces nombreuses techniques préliminaires qui ont été utilisées dans le cinéma français pour expérimenter une couleur qui était encore balbutiante, si j'ose dire. Il y a eu aussi, peu après, le Barbe Bleue de Christian Jacques qui a été, je crois, fait dans une autre technique. Bon, en tout cas, ça montre le côté expérimentateur, en effet, de Pagnol et son goût pour l'innovation. Et en même temps, j'ai tendance à penser que si Pagnol va vers la couleur, c'est qu'il veut du réalisme. Il veut que son cinéma, en tout cas, devienne de plus en plus réaliste et se débarrasse d'un certain nombre d'artifices qui avaient pu l'encombrer. Donc, de même qu'on s'est débarrassé du muet, on se débarrasse du noir et blanc. Il a pas de... Contrairement à son meilleur ennemi et ami, René Clair, il n'a pas de fétichisme par rapport à telle ou telle forme d'expression cinématographique et considère pas forcément que les expressions acquises ou anciennes soient préférables à celles qui viennent. Il est du côté de ce qui vient. Et ça, c'est assez remarquable parce qu'il aurait pu, en tant qu'homme de théâtre plutôt traditionnel, être conservateur. Il l'a jamais été. Il y a vraiment une manière d'utiliser les médias modernes et les techniques modernes dans toute leur diversité. Encore une fois, à la fois parce que c'est un homme de commerce. C'est une sorte de Walt Disney à la française, hein. C'est quelqu'un qui gère sa notoriété en businessman émérite, et en même temps parce qu'il veut, en quelque sorte, permettre à son écriture théâtrale de toucher encore plus directement les spectateurs. Alors évidemment, c'est un peu malheureux parce que cette expérience du roux color, il l'a livrée avec un film qui est vraiment pas son meilleur et où il a eu le mauvais goût de confier le rôle de Schubert à Tino Rossi, qui n'était plus tout à fait un jeune premier, et c'était pas forcément une bonne idée.
Moderne, Pagnol l'est assurément du point de vue technique et aussi stylistique dans ses films, mais qu'en est-il de son traditionnalisme ? C'est à suivre dans le prochain épisode.